34, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. J'ai un cadeau pour vous autres, spécialement si vous êtes motocycliste ou si vous faites partie de mon gang. Ouais.
Un gang de motards.
Un gang de motards, les motocyclistes.
Fais attention, ils arrêtent, c'est temps-ci, il y a des frappes policières.
C'est vrai, ouais, mais.
Ils se retrouvent en prison. Il paraît qu'en fait, ça va être le party là, dans Arsainville.
Avec le vent en face, c'est un genre de moins 31 actuellement. Fait que si tu vas à 100 km/h sur l'autoroute en moto à moins 31, ouais. D'après moi, ça ne doit pas être évident sur la peau. L'expo moto qui est de retour au centre de foire, ça va se dérouler du 7 au 9 février prochain. Donc, ça s'en vient. Boulevard 101 vous invite, chers passionnés, à cet événement. Il y a plusieurs centaines de véhicules qui vont être sur place. C'est le moment idéal pour acheter votre nouvelle moto, neuve ou encore d'occasion, que ce soit pour changer votre équipement ou encore vos bottes. L'Expo Moto, ça va vous combler. C'est un événement qui est familial, donc on amène les enfants aiment ça, les motos. L'accès est gratuit pour les enfants de 11 ans. Et boy, mon plus vieux est sur le bord. Est-ce que s'il dit qu'il y a 11 ans...
Combien de parents trichent, mettons, au cinéma, au restaurant? Quoique les jeunes ont l'air de plus en plus vieux, ouais, physiquement. Je sais pas jusqu'à quand tu vas pouvoir tricher.
Moi, je le fais au cinéma, mais je triche. Je compense avec le popcorn qui est beaucoup trop cher. Fait que je me libère de ça. L'initiation à la moto aussi en toute sécurité pour les enfants grâce à l'Académie Miloland. Ça, c'est toujours très apprécié par les enfants. Pour l'occasion, on a justement une paire de billets à vous offrir. Donc, vous nous textez au 418-971-1021, 418-971-1021. Et le mot de passe, c'est... ça va être quoi le mot de passe? Bol allemand, tiens.
Pardon?
Bol allemand. Parce que les motards avec les
Harley-Davidson,
ouais, ils ont comme un genre de bol allemand. Ouais. C'est les plus beaux casques. À savoir si c'est les plus sécuritaires.
Ben non.
On m'a dit que peut-être que non, mais non, j'ai mon bol allemand.
Je pourrais jamais faire ça à mes parents, moi.
Ouais.
Moi, la seule raison pour laquelle mon père a dit « Oui, oui, la moto », parce qu'il y en avait une puis il avait son permis, c'est un full face.
Donc, tu textes « bol allemand » au 418-971-1021, 418-971-1021, et tu vas avoir accès à l'Expo Moto qui va se dérouler du 7 au 9 février prochain. Bonne chance! Antonine Iacarini, t'es en studio. Salut!
Allô!
T'as pas de l'air fatigué pendant tout, puis tu travailles tout le temps.
Oh, Yannick.
C'est qui se passe?
Beaucoup de cash-sell.
On va chez Jean Coutu, on achète du cachet.
Chez Jean Coutu. Puis vous me rendez de bonne humeur. Fait que ouais. ça m'enlève toute forme de fatigue.
Ouais. Voilà. Antonine, ça coupe partout au gouvernement provincial. La semaine dernière, on parlait de coupures dans le secteur de Chaudière-Appalaches, des postes d'infirmières qui avaient été coupés. Québec aussi, capitale nationale, où on a coupé des postes d'infirmières. Les politiciens nous ont dit « Ouais, mais c'est des postes qui n'avaient pas été comblés, donc c'est pas comme si on enlevait un service de plus. » On est-tu en situation d'austérité ou pas? Puis pourquoi on le dit pas clairement qu'on tente justement d'essayer de combler le déficit qu'on a actuellement?
Là. C'est fou hein, comment c'est un tabou au Québec de parler de coupure de services. Même, je regardais, je pense que c'est le Parti libéral qui diffusait une vidéo, une vieille vidéo de François Legault il y a quelques années au début de la CAQ, en 2017, qui disait qu'il n'allait jamais couper dans les services. Puis je me disais, tu sais, je regarde, mettons, Pierre Poilievre au fédéral. Ce genre d'affaire qui dirait, là, oui, je vais couper. Je vais couper dans la bureaucratie.
Axe de taxe.
So, je remarque qu'au Québec, tous les partis vont toujours dire on ne coupera jamais dans les services.
Mais c'est indéniable de le faire à un moment donné, surtout dans une crise financière comme en ce moment, puis que les coffres sont déjà vides, puis on ne peut pas aller mettre de l'argent ailleurs. Il faut revamper un peu nos enveloppes budgétaires. Il faut les revoir.
Il faut être plus efficace. Il faut, c'est sûr, c'est toujours facile de dire couper dans la bureaucratie, mais c'est un peu plus difficile de dire que c'est de la coupe dans la bureaucratie quand c'est des infirmières, mm-hmm, des enseignants, des mm-hmm profs en francisation. On a vu ça cet automne, des coupes en francisation. Le gouvernement dit non, on n'a pas coupé. C'est les centres de services scolaires qui ont dépensé trop rapidement. Mais à un moment donné, c'est mathématique. S'ils n'ont pas assez d'argent et ouais, qu'ils doivent mettre des profs dehors, ben, le résultat est le même.
Est-ce qu'on a été échaudés du gouvernement Couillard qui, effectivement, était dans l'austérité?
Oui, puis le gouvernement Couillard ne s'était pas fait élire là-dessus. Il s'était fait élire sur une promesse de 250 000 jobs. Hein. Vous rappelez, ça, c'était avant, oui, la pénurie de main-d'œuvre, on promettait des jobs. Maintenant, ça nous semble un peu absurde.
Et tu parlais de 2017, je me souviens d'avoir vu une vidéo de François Legault qui mentionnait qu'il allait couper des jobs dans la fonction publique.
C'est ça. Fait qu'on promet des jobs, des coupures de jobs. Donc, l'austérité de Philippe Couillard, les rumeurs sur la colline parlementaire au gouvernement, c'était, oui, que le budget de ce printemps serait plus austère que celui de 2015 là, de Philippe Couillard, qui était considéré comme le gros moment où on parlait d'austérité. Moi, je travaillais dans l'opposition à l'époque. C'est pas compliqué, là. À tous les matins, on arrivait avec un groupe qui avait été coupé. des personnes handicapées, des maisons, des centres pour les enfants autistes. On en avait, là, les gens se faisaient couper leur budget des organisations de concertation régionale, les CRE, les forums jeunesse, tout se faisait couper une affaire après l'autre. Nous, c'était du pain béni, là, excusez-nous, là, mais on avait toujours des bonnes questions, des témoignages à amener à l'Assemblée nationale. Donc là, on est dans une situation économique beaucoup plus criante qu'en 2015. Mm-hmm. Et l'arrivée de Trump avec la menace de tarifs, ça change aussi la donne. On est dans l'incertitude la plus totale. Donc, comment tu montes ton budget dans ce contexte-là? Il faut que tu te gardes une marge de manœuvre, mais il n'y en a plus de marge de manœuvre comme telle. Donc, aide aux entreprises. Est-ce qu'on va devoir avoir de l'aide aux entreprises, certains secteurs?
Ouais.
Il y a des entreprises qui demandent qu'on n'augmente plus pas les tarifs d'électricité. Hein? C'était censé être augmenté à travers le projet de loi sur l'énergie qui est en cours d'études en ce moment. Il y a des entreprises, plein de secteurs qui sont sortis la semaine passée pour dire « Vous ne pouvez pas, en plus des tarifs, nous mettre des augmentations d'électricité. On n'y arrivera pas. » Donc, ça ne va pas être évident à boucler comme budget. Ça va être dur de sortir de l'étiquette d'austérité.
Est-ce que François Legault est encore l'homme de la situation? Puis, tu sais, on a un homme de la situation là, dans l'Ouest canadien qui s'appelle Daniel Smith qui s'est dit « Attends un peu, là, le gros orange, l'autre bord, il faut que j'aille jaser. » A pris l'avion puis est allé rencontrer Donald Trump. Il restait là pendant 2 jours pour parler d'énergie. Elle, l'Alberta, c'est le pétrole. Donc, puis les États-Unis ont besoin du pétrole canadien, quoi qu'en dise Donald Trump, là, c'est pas la première fois qu'il ment. On a du pétrole, on fournit ça aux États-Unis, puis mettre une surtaxe de 25% là-dessus, ça a comme pas de bon sens. Puis elle semble avoir négocié quelque chose qu'on va découvrir dans les prochaines heures, là, visiblement. Et on a un François Legault qui, lui, pour sauver le Québec, il a écrit une lettre qui est parue dans un journal, qui a peut-être été transmise à Donald Trump, j'en sais rien. Mais quand on lui a posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on va faire contre Donald Trump, il est rapidement tombé dans le jus d'orange, dans le sirop d'érable.
Ouais, c'était pas très drôle d'ailleurs.
Non, mais tu sais, rapidement, quand ton argument c'est le sirop d'érable du Québec, là, c'est on est dans la marde, dans le sacrifice.
Bien, Daniel Smith, ses ressources étaient directement attaquées.
Exact.
Bon, 90 % du pétrole canadien s'en va vers les États-Unis. C'est extrêmement grave. 70 % de nos exportations vont vers les États-Unis, au Québec. C'est grave aussi, là. Mais Daniel Smith, il y avait un enjeu qui la concernait directement et elle ne sentait pas de soutien de la part du fédéral. Donc, elle a décidé de prendre les choses en main.
T'aimes
de
ça,
son côté.
T'aimes-tu ça, cette attitude-là?
Bien, je pense qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a tout simplement pas le choix. Il ne faut pas être surpris là, que les provinces se prennent en main à l'heure actuelle avec un vide de leadership à Ottawa.
Exact.
Et Daniel Smith, c'était encore plus criant que les autres provinces. Maintenant, nous, au Québec, ce n'est pas tout à fait la même situation. Moi, je ne suis pas en désaccord avec l'approche en ce moment au gouvernement du Québec qui dit, regardez, là, on va attendre un peu de voir. Parce que c'est facile quand on ne sait pas. C'est pas facile, en fait. C'est un réflexe. Quand on ne sait pas, devant l'anxiété là, que ça nous crée, là, pour n'importe quelle situation dans vos vies, on se fait des scénarios dans nos têtes, là, on brasse de l'air, on imagine toutes sortes de scénarios qu'on ne sait pas s'ils vont arriver à un moment donné.
Tu me rappelles mes 16 ans.
Ah oui?
Oui.
T'as-tu une anecdote précise?
Ben, on était comme ça, on s'imaginait plein de choses.
Avec les femmes,
c'est des scénarios avec les femmes.
Comment
okay,
ça?
Pour la traduction.
Comment ça? Elles me regardent tous de cette façon-là. Mais c'est vrai, quand on est dans l'incertitude, on s'imagine plein d'affaires, plein de scénarios. Puis des fois, ça peut être plus catastrophique que la réalité qui va arriver dans les prochains jours.
Ben, c'est un peu ça. Donc, moi, je trouve pas ça fou qu'on se précipite pas dans toutes sortes de solutions. Après ça, il y a des gens qui ont suggéré qu'on coupe l'hydro aux États-Unis. Tu sais, je veux dire, là, je veux
des
bien.
Des ententes
que...
signées.
Ben, c'est ça. Tu sais, c'est correct de tout mettre sur la table. On s'en va en négociation. Il faut que tu laisses entendre que tu n'exclus rien, mais on ne va pas prendre des décisions comme des poules peut-être non plus, puis commencer à être des partenaires pas fiables dans l'avenir parce que quand il arrive un conflit, on coupe le gaz. On coupe le gaz, c'est pas du gaz. On coupe l'électricité du côté d'Hydro-Québec.
Elle savait directement avec sa colonne vertébrale où aller aussi dans ses négociations, dans son discours, versus en ce moment. Tu le dis, on l'entend, on le voit. Tout le monde est un peu déficelé là-dedans. Puis devant Donald Trump, qui est habitué de négocier, bon, que ça soit apprécié ou pas, de façon féroce. Mm-hmm. Il est un peu comme un président chinois là, en ce moment. Là. Eux, ce qu'ils tolèrent et ce qu'ils aiment, c'est une colonne vertébrale devant eux, peu importe ce qui va sortir de la bouche, c'est d'avoir la férocité de négocier. C'est comme ça qu'ils vont qualifier sur leur adversaire. On est capable d'aller plus loin ou encore, on est capable de trouver compromis. Un journaliste très connu, vous connaissez, Jean-François Lépine, lui, dans ses campagne, émission diplomatique, ce qu'il disait, c'est que même s'il te porte préjudice le leader qui est devant toi, s'il se tient puis il y a une colonne vertébrale, tu vas le respecter. On ne peut pas arriver devant un Donald Trump en ce moment en étant semi-mou parce que déjà, on perd au change.
Oui, je pense que la fermeté fait partie de la solution, mais il ne faut pas non plus penser que c'est magique parce que qu'on pense ce qu'on souhaite de Chrystia Freeland, elle a négocié le nouvel accord de libre-échange il y a quelques années et Donald Trump la déteste alors qu'elle a réussi à aller chercher plusieurs gains, puis elle s'est tenue debout, ça a été tout à fait reconnu, puis Donald Trump la déteste aussi. Donc, il n'y a pas de solution magique avec quelqu'un comme Donald Trump. Ce qu'on sait, c'est qu'il aime déstabiliser, il aime boulier, il aime, en ce moment, là, il a changé l'agenda politique de tout le pays, à tous les paliers de gouvernement, en un tweet.
Chose sûre, c'est que j'aurais aimé mieux, moi, avoir une Danielle Smith à la tête du Québec pour aller rencontrer Donald Trump. Je me sentirais plus en sécurité qu'un gars qui me parle très rapidement du jus d'orange puis du sirop d'érable. Puis peut-être qu'un jour, elle fera carrière au fédéral. J'ai l'impression qu'un jour, peut-être. Elle va faire le step supplémentaire puis elle pourrait être cette grande première ministre du Canada qu'on attend depuis des années et des années.
Oui, mais le contexte albertain est tellement différent de celui du Québec.
Parce qu'on a tellement besoin de cet argent-là pour nous, au Québec, se payer notre gros panier de services. Là, les gens se plaignent de l'austérité, mais on a un super de beau gros panier de services, quoi que les gens puissent en penser. C'est pas un hasard que les migrants, quand ils arrivent au Canada, ils tournent à droite vers l'Ontario puis le Québec, parce qu'ici, on est quand même assez confortable si jamais on tombe.
On est généreux en service aussi.
On est très généreux.
Justement.
Mais on a besoin de cet argent-là. Donc, elle a tenté de sauver les fesses de sa province, mais par le fait même, peut-être qu'on va avoir un peu plus de péréquation qu'on pensait si elle y avait pas été.
Bien, oui, puis on paye beaucoup d'impôts aussi qui s'en vont au fédéral. Il y a toutes sortes d'autres paramètres. Sauf que sur la question juste du pétrole, j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement va demander à tout le monde d'être un peu plus pragmatique. Parce que ce n'est pas des enjeux sur lesquels on débat avec beaucoup de sérénité. Les gens sont très arrêtés sur leurs opinions. Je pense que Mme Smith, elle sent bien qu'elle est un peu seule au combat. Puis sans tomber dans les hydrocarbures à fond puis arrêter nos efforts de lutte contre les changements climatiques, il faut avoir une certaine solidarité aussi avec l'Alberta. Oui, on en profite économiquement. En ce moment, les raffineries américaines sont faites pour recevoir le pétrole brut du Canada. On n'a pas de moyens, nous, de raffiner le pétrole au Canada à court terme. On a besoin des États-Unis. Donc, tout le monde perd dans cette guerre commerciale-là, ouais. Autant pour le pétrole que pour tous nos autres produits, l'acier, le bois,
on envoie et transforme, on ramène, mais on paye.
Oui, puis peut-être aussi que ça va changer en profondeur l'économie puis les chaînes d'approvisionnement aussi. Mais c'est pas vrai que les États-Unis peuvent se passer de notre pétrole aussi rapidement. C'est impossible. Exact. Et de nos produits pour les chantiers.
Je vais avoir ton point de vue. Je n'avais pas prévu parler de ça avec toi, mais je sais que tu es au courant de ces dossiers-là. Nous, à Québec, on a deux dossiers. Laisse-moi me rappeler. Je sais pas, Tramway puis Troisième Lien. On a un gros dossier au provincial où Québec avait promis que d'ici 2035, ce serait terminé pour ce qui est de la vente des véhicules à essence. D'un bord au fédéral, là, il va possiblement y avoir un changement de gouvernement si jamais il y a des élections. Et l'autre bord, c'est le géant orange qui fait peur à tout le monde. J'ai l'impression que la coalition Avenir Québec tend à utiliser ce qui ne va pas ailleurs pour tenter de se sauver un peu. C'est-à-dire, Geneviève Guilbeault tend à dire « Ouais, mais là, on a besoin de l'argent du fédéral. » Fait que là, c'est M. Duclos là, qui n'est pas capable de gérer ses affaires. Donc, pendant ce temps-là, ben, on dit « OK, c'est la faute de Justin Trudeau, c'est la faute de Duclos. » Et de l'autre côté, tu as Benoît Charrette qui sort en disant « Ouais, 2035, il y a le gros orange l'autre bord qui mène le trouble, fait que ça va être plus difficile. » Est-ce que la CAQ est en train de se sortir du pétrin par ce qui se passe à l'extérieur?
Deux choses. La première, c'est que la pression sur le gouvernement du Québec a quand même réduit là, avec le transfert vers la politique américaine puis la politique fédérale qui prennent tellement de place. Avant Noël, on parlait de remaniement ministériel à Québec. La CAQ, ça allait pas bien, etc., etc. Ça a donné comme un petit break à François Legault. Donc, ça leur donne le temps aussi peut-être de réfléchir à comment ils veulent terminer leur mandat. Il leur reste un petit peu plus d'un an et demi pour accomplir des choses. La deuxième chose, c'est que, tu sais, tantôt, je disais que l'arrivée de Trump, ça change l'agenda politique à tous les paliers de gouvernement. Je pense que la montée du conservatisme aussi, en général, risque de pousser un peu plus tout le monde vers la droite, des idées qui vont être un peu plus en vogue, des choses qui vont être normalisées, des tabous aussi qui sont un peu... qui éclatent en plein de morceaux, puis ben, tu sais, notamment juste, là, je sors complètement des voitures électriques, mais toutes les questions de genre, d'identité de genre, théorie de genre, il y a quelques années d'aller, là, tout le monde est comme fier là, de dire « il n'y a que deux sexes, masculin et féminin ».
La semaine passée, il y en avait 72, puis là, aujourd'hui, on se réveille, le gros orange dit « il y en a deux ».
Là, tout à coup, on ne reconnaît plus le trans, le transgenrisme et on n'accepte plus les personnes trans. Tout ça, en l'espace de quelques mois, là, on a décomplexé certains propos. Donc, je pense que pour les véhicules électriques, pour la lutte contre les changements climatiques, ça en fait clairement, clairement partie. Puis si on parle des projets de transport puis de l'argent du fédéral... Le temps presse. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là.
Mais c'est une bonne stratégie de blâmer constamment à l'extérieur? Parce que visiblement, le Québec n'était pas prêt là, pour 2035. Quand on parle avec un électricien, quelqu'un qui nous ramène sur le vrai plancher des vaches, là, il dit, Yann, c'est parce que les bâtisses ne sont pas bâties pour ça. Les systèmes électriques ne sont pas bâtis pour ça. Dans le secteur de Montréal, c'est pas les chevilles. Ça va prendre des années à changer.
Bien, tout est question de priorité. C'est juste des questions de priorité. Puis c'est vrai que moi, j'ai jamais vu une élection se faire sur ces enjeux-là. Mm-hmm. L'environnement, l'électrification des transports, les dossiers d'énergie, ça ne fait pas des élections. Là. Les gens ne sortent pas dans la rue faire des manifestations pour ça. Donc, c'est assez... Je trouve que c'est quand même pas si coûteux politiquement des fois de reculer sur ça. Tu sais, la CAQ, là, leur approche en environnement, ça n'a jamais été de dire, là, on va interdire le plastique puis les pailles, puis on va... C'est jamais les choses qui vont changer votre mode de vie. Électrifier, passer à l'auto électrique, c'est pas quelque chose qui change profondément le mode de vie. Ça fait pas, excusez-moi, suer le citoyen. Donc, eux, ils allaient à fond là-dedans, l'électrification des autobus, des camions, etc. Et aussi de notre énergie propre. T'sais, comment on peut décarboner des industries grâce à notre énergie propre, etc. Donc, ça, c'était vraiment l'approche de la CAQ par rapport à l'environnement. Donc, ça serait quand même un gros virage de vraiment laisser tomber cet élément-là parce que qu'est-ce qu'ils auraient entre leurs mains pour, comme bilan environnemental s'ils laissaient tomber l'électrification des transports?
Est-ce que ça en prend un absolument, un bilan environnemental, pour passer aux prochaines élections?
Je pense qu'avec la montée, comme je disais tantôt, du conservatisme, peut-être un peu moins.
Parce qu'à part les politiciens, puis une certaine tranche de la population, là, un genre de 10 % j'entends jamais vraiment parler de décarboniser le Québec au grand complet, là. C'est les politiciens puis le 10 %
Peut-être pas de dire on veut décarboner nos industries. Je pense pas que les jeunes qui s'intéressent au changement climatique, c'est nécessairement comme ça qu'ils vont l'exprimer. Mais les générations plus jeunes, vraiment, l'environnement, c'est un enjeu
très, très
d'importance.
Fort. Oui, très fort. Puis je pense qu'il va être un petit peu sur pause par rapport à l'inflation. Quand tu arrives dans l'âge adulte, tu as ton appartement, ton loyer monte et tout ça. Tu réalises aussi financièrement que tu as besoin de tes fonds pour vivre.
Exact.
Il va peut-être sur pause, mais il ne va pas disparaître, cet enjeu-là.
Non, puis les gens commencent à vivre les conséquences des changements climatiques aussi. Ça commence à être un petit peu plus réel que ça l'était quand on nous en parlait dans les années 90.
On termine avec ça, Antonine. Il reste 2 minutes à peu près. Quand on nous a annoncé une course à la chefferie du Parti libéral du Québec, j'étais vraiment excité parce qu'enfin, mon chef de Ragy allait devenir mon premier ministre. C'est quelqu'un que j'adore, quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui est capable de jaser avec tout le monde d'un bord et de l'autre. Il est le fun à jaser. Il a toujours énormément d'informations. Il est capable de mettre les partis adverses dans l'embarras. Fait que quand il a dit « Moi, j'y vais pas », j'ai été extrêmement déçu, mais j'avais quand même espoir avec Marois Risky, que je trouve franchement intéressante. Elle a dit « Non, je vais privilégier mes enfants. Salut, je suis enceinte. Ciao, bye. » Là, je me ramasse avec...
Pablo?
Avec Pablo, qui vient du fédéral, qui est vraiment pas excitant.
Coder,
ben, je parle comme CV, mettons, là. Non, mais CV, curriculum vitae, pas CV, toi, ton nom. Mais tu sais, Pablo Rodriguez, il me dit absolument rien. Charles Milliard, qui gagne à être connu, mais qui a un déficit de notoriété que je trouve quand même intéressant.
Et d'intérêt envers nous
mais
aussi.
Mais pour ce qui est des deux autres candidats, bon Dieu, cette course-là n'est pas excitante pantoute. Là.
C'est pas excitant, puis c'est plate pour nous, mais c'est le fun pour eux. OK? Parce que, premièrement, ils n'ont pas beaucoup d'attention. En ce moment, une course à la chefferie, c'est quand même une occasion pour un parti aussi de recruter des membres, de faire un peu parler de soi, puis de montrer comme un renouveau. Mais en même temps, une course à la chefferie, c'est des chicanes en interne, c'est des déchirements, c'est des débats. C'est un moment où est-ce qu'il y a moins la ligne de parti à l'unisson. Mmh. Donc, il y a des risques aussi dans une course à la chefferie. Donc, moi, je trouve pas ça mauvais pour le Parti libéral qu'on en entende un petit peu moins parler. Mais il y a quand même des différences importantes entre les candidats. Là, c'est sûr qu'on connaît pas toutes leurs idées surtout, là, parce que la course a mis juste de commencer. Mais par exemple, un Pablo Rodriguez qui arrive du Parti libéral du Canada, je pense qu'il va s'essayer à faire un peu comme Christophe Freeland en ce moment
au
fédéral.
Il va s'éloigner de Justin Trudeau.
Oui, c'est ça. Il va essayer de dire non, non, c'est pas moi ça, puis de proposer des choses complètement différentes.
J'étais d'accord, mais pas tant.
C'est ça, là.
En fait, j'étais pas tant d'accord avec tous les problèmes que Justin Trudeau nous a amenés.
Mais il peut pas faire du PLQ quelque chose de super à droite non plus, là, ça marcherait pas. Alors que Charles Milliard arrive des chambres de commerce.
Et le PLQ, au niveau économique, a tout le temps été centre-droit, là.
Bien, c'est ça. Puis à part avec un virage à gauche de Dominique Anglade que personne n'avait demandé, là, je pense que le salut du PLQ, c'est au centre-droit.
Ouais.
Puis d'aller rechercher l'économie là, des chambres de commerce, je pense que Charles Milliard, qui arrive du réseau des chambres de commerce, aurait ce potentiel-là, même si pour l'instant, il est moins connu. Moi, je pense qu'il pourrait peut-être surprendre. Puis pour ce qui est de Denis Coderre, ben là, il va mettre du piquant.
Mais il est tough.
Ben oui.
Il est tough.
Mais on ne sait même pas s'il va pouvoir se présenter. Le pauvre, il n'a pas encore réglé ses histoires.
Ça ferait longtemps que je serais parti. Antonine Iacarini, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Est-ce qu'on te voit à la télé dans les prochains jours?
Je serai demain à RDI à partir de 14h.
Parfait, on t'écoute. Salut!
Bye. Marceau le midi.